C'est sans doute le message durant lequel il ne faut pas dormir. Si vous avez dormi durant les trois premières, bon, c'est quand même pas bien. Hein. Mais c'est mieux si vous restez éveillé pour ce quatrième message exposé sur l'évangile de Jean. Et nous pouvons ouvrir notre livret, c'est à la page 20. Et sinon, nous allons lire dans l'évangile de Jean au chapitre 13. On revient progressivement en arrière et nous allons lire des versets 1 à 30. Jean 13, versets 1 à 30. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper, le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus, sachant que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il se mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui dit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais, tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui dit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. » Et vous êtes purs, mais pas tous. En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Je ne parle pas de vous tous. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Je vous le dis déjà maintenant, avant que cela n'arrive, afin que lorsque cela arrivera, vous croyez que moi je suis. En vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, moi, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Après avoir dit ces paroles, Jésus fut profondément troublé et il déclara solennellement « en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. » Les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit donc signe de demander « qui était celui dont Jésus parlait ?» Ce disciple se pencha vers Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce ? » Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau de pain que je vais tremper. » Puis il trempa le morceau de pain et le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le rapidement. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait « Achète donc, achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. Après avoir pris le morceau, Judas sortit aussitôt, il faisait nuit. C'est le dernier soir. Pas pour nous. Pas encore. On est qu'au matin. Mais c'est le dernier soir et ils sont tous là. Ils sont tous là, réunis dans la chambre haute. Jésus avec ses 12 disciples. Jésus réuni avec ses 12 disciples, plus un 14e personnage. Un 14e personnage. Quelqu'un qui guette dans le silence, prêt à dévorer sa croix, le diable, Satan. Il est évoqué au verset 2 et il intervient à la fin du récit au verset 27. Jean a décidé d'intégrer ce 14e personnage dans le récit du lavement des pieds et ce n'est pas pour rien. Jean nous fait un gros clin d'œil. Il nous fait un gros clin d'œil afin que nous puissions comprendre le sens du récit. Jésus demande-t-il littéralement de faire ce qu'il vient de faire, c'est-à-dire laver les pieds à chaque célébration de la Pâque? C'est ce que l'Église primitive mettait en pratique chaque jeudi saint. Chaque jeudi saint, l'Église primitive mettait en pratique, lors de la cérémonie de la Podonipsia en grec ou du Pedilavium en latin, cette cérémonie où on se lavait les pieds. Cette cérémonie s'est perpétuée dans l'Église jusqu'à aujourd'hui, dans l'Église catholique, mais pas seulement l'Église catholique, les Églises protestantes, les Églises orthodoxes et aussi des Églises évangéliques. Et je me souviens, à ce camp même, il y a 2 ans, un étudiant était venu me voir et m'a simplement posé cette question. Paul, dans nos églises, en tout cas dans mon église évangélique, c'était une église évangélique à Lyon, on lave littéralement les pieds les uns aux autres. Et qu'est-ce que tu en penses? Alors je crois que j'ai dû lui envoyer ma dissertation de 20 pages, une dissertation de théologie d'exégèse de 20 pages sur ce sujet même. Donc si vous êtes intéressé, vous pourrez aussi me demander cette dissertation de 20 pages. Jésus demande-t-il aux disciples de se laver littéralement les pieds? Jésus, il me semble, demande aux disciples de réfléchir à ce qu'il vient de faire. Regardez le verset 12 à nouveau. Comprenez-vous ce que je viens de faire? Comprenez-vous ce que je viens de faire? Jésus nous invite aussi à réfléchir sur ce qu'il a fait. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. C'est ce que nous voulons faire ce matin. Regardez à nouveau le texte, étudier le texte pour essayer de comprendre ce que Jésus veut nous dire. Et le texte ou la scène, le récit, se décompose en 3 tableaux. 3 tableaux ou 3 scènes. Vous avez des indices de structure dans le livret, page 20, au tout début. Et il y a 3 scènes. Première scène, donc l'indice c'est avant la fête de la Pâque, première scène, Jésus va laver les pieds des disciples. Deuxième scène, à partir du verset 12, avec après avoir lavé les pieds, donc Jésus se rassied et Jésus va expliquer son geste. Et la troisième scène, après avoir dit ces paroles, c'est le verset 21, Jésus annonce la trahison de Judas. Un passage qui est assez long, mais qui se décompose en 3 scènes. Alors, nous n'allons pas reprendre scène par scène l'ensemble du récit, en tout cas l'ensemble de la scène, de l'épisode, mais je vous propose plutôt ce matin de regarder les 2 mouvements du texte, parce qu'il me semble qu'il y a 2 mouvements dans le texte. Et ces 2 mouvements sont les suivants. D'un côté, Jésus demande aux disciples de discerner le sens de ce qu'il fait, de comprendre ce qu'il fait. Qu'est-ce que ça veut dire que laver les pieds? Et c'est ce que nous allons voir dans une première partie. Quel sens, en fait? De l'autre côté, donc le 2e mouvement, Jésus demande aux disciples de faire comme il a fait, de prendre exemple sur lui, d'agir comme lui. Et c'est la deuxième partie, ce sera notre deuxième partie, quel exemple. Il nous faut donc d'abord expliquer ce que signifie le lavement des pieds avant de le mettre en pratique. Jésus invite toujours ses interlocuteurs à réfléchir sur ce qu'il fait, sur ce qu'il dit. Et l'évangile de Jean, il me semble, c'est par excellence le livre des signes. C'est le livre des signes. Et les miracles dans l'évangile de Jean ne sont jamais appelés des dunamis. Les dunamis en grec, ce sont des puissances, des miracles. Mais les miracles dans l'évangile de Jean sont appelés des séméiones. Des séméiones en grec, c'est-à-dire des signes. Et le but d'un signe, c'est de montrer, c'est de révéler quelque chose. Sur la route, lorsque nous roulons, nous conduisons, il y a des panneaux signalétiques. Et le but des panneaux signalétiques, c'est d'indiquer la direction, d'indiquer la bonne direction à prendre, à montrer le chemin. Les séméiones, donc les signes dans l'évangile de Jean, sont comme des panneaux indicateurs, des panneaux signalétiques qui montrent qui est Jésus. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il fait? Et le chemin de salut vers lequel il conduit. Qu'est-ce que Jésus fait en lavant les pieds des disciples? Qu'est-ce que Jésus fait en lavant les pieds des disciples? Des soins pédicures, non. Nous l'avons bien vite compris. De nombreux chrétiens, pasteurs et théologiens, pensent que Jésus est en train de montrer ce qu'est l'humilité. Jésus est en train de montrer ce qu'est l'humilité. Le Seigneur lui-même va s'humilier en servant les serviteurs. Les serviteurs doivent prendre exemple sur Jésus et servir les autres humblement. Voici ce que dit un théologien catholique, prêtre, dans une prédication. Écoutez, pour participer au mystère du Christ, il faut accepter son abaissement et rentrer avec lui dans cet abaissement infini. Ce qui caractérise le mystère de Dieu, cette condescendance, c'est cette descente vers l'extrême de la misère et de la détresse. Marie-Joseph Le Guillou, La puissance de l'amour de Dieu dans sa parole, 1997. Un spécialiste de l'évangile de Jean écrit la chose suivante. Écoutez, le geste du lavement des pieds signifie le comportement de tout disciple dans la communauté. Le geste du lavement des pieds signifie le comportement de tout disciple dans la communauté. Xavier Léon Dufour, lecture de l'évangile de Jean, 1993. Pour résumer leur pensée, le lavement des pieds, c'est la mise en pratique de l'amour, du service et de l'humilité. Une telle compréhension est défendable, semble cohérente. Pourtant, cette compréhension laisse, il me semble, peut-être beaucoup trop d'éléments dans le texte. Et vous vous souvenez de Oya. Dans Oya, on prend en compte tous les indices du texte. Ouais. Comme dans une enquête policière, les enquêteurs doivent prendre en compte tous les indices pour interpréter ces indices et comprendre en fait réellement ce qui s'est passé. Et en interprétant le lavement des pieds comme simplement la pratique de l'amour, de l'humilité, du service, il me semble que ça laisse de côté pas mal d'éléments. Et regardons justement ces éléments qu'on laisse de côté. Si le texte parle seulement d'humilité et nous engage à l'amour, que faire des indices suivants? Premièrement, la mention de la fête de la Pâque, verset 1. La mention de la fête de la Pâque. Toujours verset 1, il est question aussi de l'heure de Jésus. L'heure était venue pour Jésus de passer de ce monde au Père. Encore un autre élément, la présence du diable. La présence du diable dans ce passage, verset 2 et verset 27, on l'a déjà vu. Encore un autre élément, les deux réponses de Jésus à Pierre. Les deux réponses de Jésus à Pierre, il ne peut pas comprendre maintenant, mais seulement par la suite, d'une part, verset 7, et d'autre part, verset 8, il n'a pas part avec Jésus si Jésus ne le lave pas. Encore d'autres indices, les multiples mentions de Judas, et en particulier la trahison de Judas et la troisième scène qui traite de la trahison de Judas. L'ensemble de ces indices, il me semble, pointe vers la croix. L'ensemble de ces indices pointe vers la croix. Et il ne pointe pas seulement vers la croix, mais c'est comme si on était à la croix. Et regardons à nouveau les indices. La Pâque fait référence à la sortie d'Égypte dans l'Ancien Testament, à la fin de l'esclavage. Mais dans le Nouveau Testament, c'est la référence à la croix. L'heure de Jésus dans le Nouveau Testament, c'est l'heure de Jésus. C'est le moment de sa crucifixion. C'est le moment de la croix. Refuser d'être lavé par Jésus, en tout cas pour Pierre, c'est ne pas avoir part avec Jésus. Et Pierre, en fait, n'a pas compris immédiatement pourquoi Jésus devait aller à la croix, tout comme il n'a pas compris pourquoi est-ce que Jésus devait lui laver les pieds. Le chemin vers la croix, en tout cas le chemin de la croix, commence avec la trahison de Judas. Et enfin, la présence du diable ou de Satan montre qu'il ne s'agit pas ici simplement d'une réunion entre Jésus et ses disciples, mais il me semble qu'il s'agit du combat de la croix. Il s'agit du combat de la croix. Bref, Jésus lave les pieds et ça renvoie à sa mort. Quand Jésus lave les pieds des disciples, il est en train de mimer, de préfigurer sa mort. Et souvenez-vous, l'amour de Jésus, parce qu'il est question d'amour extrême ici, d'amour suprême, l'amour de Jésus, ce n'est pas l'amour comme entre un homme et un chien. Vous vous souvenez de cette publicité de César? L'amour de Jésus, l'amour suprême que Jésus va donner à ses disciples, c'est l'amour sacrificiel. Et sans ce sacrifice, sans le sacrifice de Jésus, il n'y a pas de pardon. Et les disciples, en fait, ne peuvent être pardonnés et nous ne pouvons être pardonnés. Accepter d'être lavé par Jésus, c'est accepter sa mort. C'est avoir part avec lui. Quel exemple à suivre alors maintenant ? En lavant les pieds des disciples, Jésus leur donne l'exemple à suivre. Laver les pieds pour Jésus, ce n'est pas d'abord un modèle d'humilité à imiter, c'est offrir sa vie pour les disciples. C'est offrir sa vie pour les disciples. Le lavement des pieds n'est donc pas une pratique à reproduire littéralement ou mécaniquement, comme le faisaient et comme le font certaines églises. Le lavement des pieds n'est donc pas aussi d'abord un modèle d'humilité à imiter. Si le lavement des pieds renvoie bien à la mort de Jésus, comment les disciples allaient-ils reproduire cet exemple? Allaient-ils aussi, eux, mourir à la croix? Mourir à la croix comme Jésus est mort à la croix? C'est impossible. C'est non seulement impossible, mais c'est inutile, puisque Jésus va déjà, ou plutôt va, dans le contexte, tout accomplir. Comment comprendre cette parole de Jésus? Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme ce que je vous ai fait. Comment comprendre cette parole? Il faut relire le texte, regarder à nouveau le texte, et en particulier les versets 16 à 20. Les versets 16 à 20 nous aident à comprendre ce dont il s'agit. Et il nous faudra certainement aller aussi un petit peu plus loin pour comprendre ces paroles de Jésus. Sur ces versets 16 à 20, 5 versets, il y a 3 versets qui correspondent à 3 formules. Et relisons-les à nouveau, ces 3 formules. Verset 16 d'abord. « Je vous le dis, le Seigneur n'est pas plus grand que son... Le serviteur, pardon, n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. » Verset 17, deuxième formule. « Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Verset 20, troisième formule, « Je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit moi, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Et les versets 18 et 19 renvoient à la trahison de Judas et à la foi des disciples. Il nous faut interpréter donc les trois formules que nous venons de lire dans le contexte plus large de Jean, en tout cas du chapitre 13, et en particulier, donc il nous faudrait regarder les chapitres qui vont de 13 à 17. Il y a un thème commun qui relie ces trois paroles ou ces trois formules, et c'est celui de la mission. Ouais, c'est celui de la mission. Verset 16, reprenons-le, Jésus est conscient, en fait, de la mission. Il a passé les dernières années de sa vie à annoncer la bonne nouvelle, à obéir à son Père, en obéissant à son Père. Et parce qu'il savait que l'heure était arrivée, il savait qu'il n'était pas plus grand que son Père, Jésus encourage ses disciples à poursuivre la mission. Jésus encourage ses disciples à poursuivre la mission parce qu'il sait que le départ est imminent. Vous êtes heureux, c'est le verset 17, si vous le mettez en pratique. C'est encore un appel de Jésus. Vous êtes heureux si vous le faites. Et Jésus les appelle justement à le faire parce que son départ est proche et immédiat presque. Le verset 20 renvoie encore à la mission et établit un transfert d'autorité, de Jésus vers les disciples. Maintenant, recevoir les disciples, c'est recevoir Jésus. Recevoir Jésus, c'est recevoir Dieu. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie que recevoir les disciples ? Recevoir les disciples, concrètement, c'est recevoir le témoignage qu'ils ont, laissé, le témoignage des apôtres dans la parole de Dieu. Ouais. Cette parole de Dieu qui correspond au témoignage qu'ils vont rendre à Dieu et à Jésus. C'est accepter Jésus, accepter que Jésus est Dieu. Les trois formules convergent vers l'idée que les disciples vont reproduire ce que Jésus a fait durant sa vie terrestre. Les disciples vont reproduire ce que Jésus a fait durant sa vie terrestre. Ils vont continuer à faire connaître la bonne nouvelle. Ils vont participer, en fait, ils participent à l'œuvre de Dieu indirectement. Ils participent au sacrifice de Jésus. Alors, ils ne vont pas mourir sur une croix pour le péché du monde, mais ils vont porter dans leur corps ce message. Et la suite de l'histoire, en tout cas telle que l'Évangile nous le rapporte, raconte comment les disciples ont compris, et ont mis en pratique l'exemple de Jésus. C'est au péril de leur vie, effectivement, qu'ils reproduiront chacun à leur tour l'exemple du Maître. Ils proclameront au péril de leur vie la bonne nouvelle, afin que tous connaissent Dieu et qu'ils soient sauvés. À leur tour, ils reproduiront, selon les capacités que Dieu donne, cet amour suprême, cet amour que leur a montré leur maître. Donner leur vie pour leur prochain, pour les autres. La mission, avant d'être un acte extérieur visible, c'est d'abord une démarche intérieure, c'est d'abord une démarche de cœur. Un renoncement à soi-même pour le salut de l'autre. Et c'est vrai, la mission se réalise dans un état d'esprit d'amour, d'humilité et de pardon. L'annonce de la bonne nouvelle n'est jamais une prédication désincarnée, c'est-à-dire des idées, des concepts ou des paroles abstraites. C'est une prédication qui s'accompagne de gestes d'amour et de pardon. Et nous ne sommes pas là dans une position de supériorité à dire « vous êtes tort, vous êtes dans l'erreur, vous avez tort, vous n'avez qu'à ». Nous cherchons à atteindre nos interlocuteurs par le dialogue et dans notre témoignage vivant. Et la réalité, c'est que nous vivons dans une société actuellement où les gens voient plus ce que l'on fait que ce que l'on dit. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut être 100% cohérent, chargement en cours. 100% cohérent. Je me souviens d'un professeur à l'Institut catholique de Paris, un prêtre. Il a enseigné la théologie chrétienne des religions, comment est-ce que le christianisme perçoit les religions. C'est un ancien professeur de philosophie qui s'est converti, qui s'est tourné vers Jésus et qui a aussi étudié la théologie. Et il enseigne à l'Institut catholique de Paris. Et comme c'est un professeur de philosophie et que je n'ai aucune base en philosophie, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce qu'il voulait dire. Il nous a parlé un jour de la vérité. Et sa définition de la vérité, si je me souviens à peu près, je vais reformuler seulement. La vérité advient lorsqu'on réduit l'écart entre ce qui est visible et ce qui est invisible. La vérité advient lorsqu'on réduit l'écart entre ce qui est visible et ce qui est invisible. Et j'ai mis un an pour comprendre en fait cette parole. J'ai mis un an pour comprendre cette parole, mais je suis content parce qu'au bout d'un an, j'ai quand même compris. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on appelle Jésus est la vérité? En tout cas, ce n'est pas on appelle, mais pourquoi le texte biblique, pourquoi la parole de Dieu dit que Jésus est la vérité? Jésus est la vérité, il me semble, parce que entre ce que Jésus dit et entre ce que Jésus fait, en fait, il n'y a pas d'écart. Ouais. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des mathématiques, mais lorsque vous étudiez, par exemple, une asymptote, ça tend vers l'infini. On tend à réduire en fait l'écart. Ouais. Et normalement, vers l'infini, dans une courbe asymptote, une courbe de type 1 sur x, bah, la courbe tend vers en fait, la droite, je dirais, l'abscisse. Et donc, ça tend vers le zéro. Et donc, la vérité advient lorsqu'on réduit l'écart entre ce qui est fait et ce qui est dit. Et Jésus est la vérité parce qu'entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il n'y a pas d'écart. Et la réalité de nos vies, la réalité, hélas, de nos églises, c'est souvent entre ce que nous prêchons, ce que nous croyons, il y a souvent des écarts qui sont assez remarquables. Et il me semble que ce n'est pas forcément un bon témoignage pour ceux qui nous regardent, et en particulier pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Revenons au verset 18 et 19. Judas ne pouvait pas être associé à cette mission, puisque même s'il avait suivi Jésus, son cœur n'était pas attaché. Son cœur n'était pas attaché à Jésus, son cœur n'était pas disposé. Le geste qu'il va accomplir atteste justement et confirme l'état de cœur de Judas. Et c'est pour ça, il me semble, qu'à la veille de la mort de Jésus, du départ de Jésus, Jésus l'écarte de la mission. De l'autre côté, versets 18-19, les disciples, en fait, vont être affermis. L'exemple de Jésus va affermir la foi des disciples. Et ils croyons vraiment. Ils croiront par nous, vraiment. C'est ce que le texte nous dit. Jésus lave les pieds des disciples. Avons-nous compris le geste de Jésus? Jésus lave les pieds des disciples. Avons-nous compris le geste de Jésus? Il ne s'agit pas de reproduire littéralement le geste, le lavement des pieds, comme un rituel. Il ne s'agit pas aussi, premièrement, de mettre en pratique le service mutuel d'amour. C'est la croix qui apparaît derrière ce geste d'amour suprême. Et les disciples ont pu reproduire ce geste en se souvenant de ce que Jésus a fait. Les disciples ont pu reproduire ce geste en se souvenant de ce que Jésus a fait. Ils ont pris part à l'œuvre du Christ en s'attachant à Christ, à lui, et en s'attachant à la mission qu'il leur avait confiée. Nous sommes tous invités à reproduire l'exemple de Jésus à travers la mission qu'il nous confie. Je voudrais remercier plus particulièrement un ami qui m'a lavé les pieds durant la préparation de ces exposés, Jonathan. Jonathan, où es-tu? Te cache pas. Jonathan Chintrier, où est-il? Il dort, hein, mince alors. Hein? Merci Jonathan d'avoir corrigé, d'avoir relu exposé après exposé l'ensemble de ces 6 exposés. Je te remercie personnellement et aussi c'est l'ensemble de l'Assemblée qui doivent aussi te remercier. Merci d'avoir lavé les pieds, d'avoir rendu ce service, parce que ça a pris du temps de relire exposé après exposé. Et que le Seigneur, en tout cas, te bénisse richement dans ce que tu as fait et dans ton ministère et dans ta famille. Merci d'avoir lavé mes pieds. Revenons au thème de notre camp. Pour nous qui vivons en l'absence corporelle de Jésus, comment allons-nous tenir bon? Il me semble, en nous souvenant de ce que Jésus a fait, en nous souvenant de la croix. Et ce n'est pas simplement un souvenir qui s'estompe, mais c'est plutôt une anamnèse de la croix. Une anamnèse, qu'est-ce que c'est? Un médecin me disait, une anamnèse, c'est en fait faire l'histoire de la maladie. C'est bien ça, cher Azad. Ça doit être ça, alors. Faire anamnèse de la croix. Faire anamnèse de la croix, c'est-à-dire nous rappeler que notre foi n'est pas fondée sur notre propre foi, mais notre foi, parce que notre foi est trop vacillante, mais notre foi est fondée sur quelqu'un qui est mort et ressuscité, quelqu'un qui est mort et ressuscité il y a 2000 ans, quelqu'un qui était Dieu et qui s'est fait homme, Jésus-Christ. Cette anamnèse de la croix, cette anamnèse est opérée par l'Esprit-Saint, lorsque nous lisons la parole de Dieu. Nous tiendrons bon lorsque nous lirons sa parole et que l'Esprit-Saint nous fait rappeler qu'il y a 2000 ans, quelqu'un est mort pour nous, mort pour nos péchés, et nous pouvons avoir l'assurance que nous sommes pardonnés, nous sommes acceptés par Dieu. Prions. Par l'œuvre de ton Esprit et de ta parole, la croix nous est rendue visible. Seigneur, nous prions que chaque fois que nous ouvrons ta parole, tu nous remplisses de joie. Tu nous remplisses de joie parce que nous savons que, par amour, tu nous as lavés et tu es vivant. Tu es vivant et nous voulons te faire connaître. Aide-nous à laver les pieds les uns aux autres, pour la gloire de ton nom. Amen.